Il est 8h14, cette équipe. De quoi nous plaignons-nous? La semaine est déjà bien entamée. En fait, il s'est déjà tellement passé plein de trucs qu'on doit faire un point sur les news avec Guillaume Abbé.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Il nous présente de Flash. Bonjour Guillaume.
Bonjour. Oubliée, abîmée, la plaine du Bas-Valais souffre-t-elle aujourd'hui de désamour? Peut-être est-ce même le cas depuis toujours. La nouvelle exposition du Manoir de Martigny propose de se pencher sur cette question. Intitulée « Paysage oublié, regard sur la plaine », elle met en avant le travail de 4 artistes ou collectifs d'artistes contemporains. Dessins, photos et vidéos amènent le visiteur à s'interroger sur sa relation à la plaine, alors que son œil cherche plutôt à contempler les montagnes en général. Avec en toile de fond un acteur incontournable, ce fameux fleuve que nous traversons tous si souvent. Julia Taramarca, curatrice du Manoir de Martigny.
C'est le Rhône qui a défini en quelque sorte la plaine au centre de ces montagnes. Et il y a effectivement aussi un travail qui est présenté sur le Rhône. Le duo Marie Vellardi et Jérôme Lebas, qui est en train de créer un travail de recherche HESSO et qui s'intéresse vraiment à notre relation au Rhône. Quelle relation on entretient avec le Rhône, comment on l'envisage? Dans l'exposition, c'est un chapitre de cette recherche qui est présenté et qui parle du risque de crue, du risque d'inondation, comment on peut l'envisager.
L'exposition Paysage oublié, regard sur la plaine est à voir au Manoir de Martigny jusqu'au 22 mai. En complément, des rencontres, des ateliers et des lectures de textes sur la thématique sont également mis sur pied. Un sujet d'Alexandra Claude. L'avenir des maisons de naissance est en partie menacé, c'est du moins la crainte de la députée verte Anne-Laure Métraud-Botteron. Elle a déposé au Grand Conseil un postulat demandant une meilleure reconnaissance des maisons de naissance, en particulier celles situées hors des hôpitaux. L'élu estime qu'au niveau légal, ces lieux d'accompagnement se trouvent dans un statut précaire. Les autorisations d'exploiter leur sont délivrées au compte-gouttes et certains nouveaux projets restent bloqués durant plusieurs années. Par ailleurs, la planification hospitalière du Conseil d'État, mise en consultation l'an dernier, insistait sur les risques pour la mère et l'enfant en cas de complications, de quoi inquiéter les défenseurs de ces structures qui n'en démordent pas à Anne-Laure Métraud-Botteron.
Ça permet aux femmes et aux futurs parents en général d'avoir plus d'options et puis je pense que c'est important que chaque femme qui va accoucher puisse accoucher là où elle a envie et là où elle se sent à l'aise. Que ce soit dans un hôpital ou dans une maison de naissance au final.
On sent des fois un peu un clivage, hein. Il y a vraiment un peu la team hôpital et la team maison de naissance, si on peut dire ça comme ça.
Ouais, j'espère qu'à terme ça va disparaître et puis qu'on puisse vraiment être libre du choix de l'accouchement et que les hôpitaux et que les sages-femmes et que les médecins puissent mieux collaborer ensemble pour vraiment finalement assurer le bien-être des femmes et des futures mères et des futurs parents.
Des propos recueillis par Alexandra Claude, la demande d'une meilleure reconnaissance des maisons de naissance hors milieu hospitalier a été soutenue par une trentaine de députés tous bords politiques. Elle a donc été transmise à une commission du Grand Conseil pour examen. La banque Crédit Suisse aurait pendant des années accepté comme client des autocrates, des trafiquants de drogue et d'êtres humains, ainsi que des criminels de guerre présumés, selon une enquête de plusieurs médias, parmi lesquels le journal britannique Guardian, le français Le Monde et l'américain New York Times. La banque Crédit Suisse conteste ces accusations. Vladimir Poutine et Joe Biden ont accepté ce matin de se rencontrer. Ce sommet, proposé par Emmanuel Macron, se déroulera à la condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici là. Cette annonce surprise intervient alors qu'une guerre était donnée pour imminente par plusieurs médias américains. Le nouveau réseau social de Donald Trump, Truth Social, va être progressivement mis en ligne cette semaine. Il devrait être complètement opérationnel d'ici fin mars, plus d'un an après l'exclusion de l'ancien président américain des grandes plateformes. Boris Johnson dévoile aujourd'hui sa stratégie pour vivre avec le Covid. Malgré les critiques et avertissements qui entourent la fin attendue des dernières restrictions, comme l'isolement obligatoire pour les malades, la présentation de ce plan a été avancée d'un mois par le Premier ministre britannique, secoué par le scandale du Partygate. Et ce, le lendemain, après que la reine Elisabeth II a été testée positive au Covid-19. Elle est âgée de 95 ans et ne présente toutefois que des symptômes légers comparables à ceux d'un rhume, a annoncé hier le palais de Buckingham. La souveraine mènera néanmoins des tâches légères au cours de la semaine prochaine afin de se ménager, ont précisé ses services. Elisabeth II avait récemment été en contact avec son fils, le prince Charles, 2 jours avant que celui-ci ne soit testé positif. Camion remorqué, manifestants arrêtés, la police avait quasiment repris hier le contrôle d'Ottawa. Paralysé durant 24 jours par des camionneurs s'opposant à la politique sanitaire du gouvernement canadien, les autorités ont indiqué en milieu de matinée avoir procédé à l'arrestation de 190 manifestants et remorqué une 50aine de véhicules. Le président de République dominicaine a lancé hier en grande pompe la construction d'un mur de 160 km. Il s'étendra le long de la frontière de son pays avec Haïti. Ce projet controversé doit, selon le président dominicain, aider à contrôler l'immigration clandestine et le crime. L'Australie a rouvert aujourd'hui ses frontières extérieures à tous les touristes vaccinés. Cette ouverture intervient presque 2 ans après l'imposition de restrictions sur les voyages parmi les plus sévères au monde pour lutter contre la propagation du Covid-19. Enfin, en sport, en football, le FC Sion est passé tout près d'une victoire face au leader de Super League hier à Tourbillon. Drôle de 1-1, en effet, entre la formation valaisanne et le FC Zurich dans un match qui s'est déroulé en deux phases bien distinctes. Jusqu'à l'heure de jeu, peu d'occasions franches, pas beaucoup de rythme, puis la dernière demi-heure riche en rebondissements. Première fulgurance dans cette rencontre, l'ouverture du score de Wesley. Puis depuis ce moment, tout a basculé en défaveur des Valaisans avec dans l'ordre le carton rouge de Cipriano à la 67e, l'expulsion de l'entraîneur Paolo Tramezzani dans la foulée, puis l'égalisation zurichoise sur penalty au bout des arrêts de jeu. C'est ce qu'on appelle un match plein. Écoutez le défenseur du FC Sion, Yann Bamert.
Bon, je pense comme footballeur, on aime ces matchs comme ça, avec un stade vide comme presque les 2 dernières années. Le carton rouge contre notre coach, je n'ai même pas vu, j'ai vu sur l'écran. Je ne savais pas ce qui se passait. Après, comme joueur, tu essaies de rester dans le match. Je pense après le carton rouge contre Cipriano, on a défendu avec tout ce qu'on avait. Un match super à jouer, beaucoup d'émotions, beaucoup de duels, avec le public qui était super, qui nous a soutenus. Tous les matchs, et puis je pense comme joueur de professionnel, tu aimes jouer ces matchs comme ça.
Beaucoup d'émotions donc, comme le dit Yann Bamert, mais aussi beaucoup d'engagement. Et lors du prochain match, c'est un autre gros morceau qui se présentera face au FC Sion. Après avoir accueilli Zurich, les Valaisans se rendront à Berne pour y défier IB samedi. Précisons enfin que les hommes de Paolo Tramezzani bouclent la 22e journée de Super League à la 8e place. Ils comptent toujours 11 points d'avance sur Lucerne qui est 9e et barragiste. Servette, 5e du classement, n'est qu'à 3 longueurs de la formation sédinoise.